Cette semaine, dans l'attente du dénouement de la rentrée littéraire que représente la remise des prix, Goncourt en tête bien évidemment, on célèbre un peu partout dans nos suppléments ce genre difficile à cerner, l'essai littéraire ou non. Qu'est-ce qui fait qu'un essai, la tentative donc de saisir et d'examiner par la pensée un aspect de l'activité humaine, car un tel genre est humaniste depuis sa naissance, confère Montaigne, rencontre son public, suscite l'intérêt, voire le débat pour faire date dans l'histoire de la pensée. Disons-le tout de suite, nous ne répondrons pas à cette question, mais voyons un peu comment elle s'entremêle avec l'actualité littéraire de la semaine. C'est d'abord, comme le souligne le rendez-vous des livres dans l'Humanité et le dossier du Monde des Livres, le centenaire de la Révolution d'octobre. Dans le premier, l'UMA, donc, on déplore la campagne visant à ternir la mémoire de Lénine. Et on conseille, par la voix de Jean-Paul Pierrot, éditorialiste politique du quotidien, le livre de Lucien Sèvres intitulé « Octobre 1917, une lecture très critique de l'historiographie dominante », ça c'est le sous-titre, et publié aux éditions Sociales. Lénine, dit-il, est actuellement traité de façon très largement dominante en chien crevé. Sur quoi renchérit l'éditorialiste, Lénine a quasiment disparu des rayons des bibliothèques, son œuvre est devenue un magistral trou noir académique. Mais aussi, que reste-t-il de l'Octobre russe, autre livre de Roger Martelly qui analyse lucidement le fait que, pour le citer, le parti pensait prendre l'État et l'État a fini par prendre le parti. Ce livre, néanmoins, ne rejette absolument pas l'expérience communiste non plus. Il est évoqué, ce livre également, dans Le Monde des Livres et pas seulement dans l'UMA, mais dans une liste qui s'ouvre sur le tome 3 d'une histoire du communisme mondial de Thierry Volton chez Grasset, tome 3 intitulé « Les complices ». Le titre tout de suite fait saisir immédiatement l'enjeu et la pensée de l'auteur qui n'est pas précisément la même que celle de l'UMA. En revanche, les deux s'accordent sur un texte, c'est-à-dire « L'UMA et le monde », en une du dossier du Monde et dans la rubrique « Parlons-en » du supplément de l'UMA, à savoir ce texte « La maison éternelle, une saga de la révolution russe » de Youri Zleskine et qui raconte à la façon d'un roman fleuve, c'est le cas de le dire, la vie des habitants d'un immeuble aux dimensions de gros village, 550 appartements, 2655 habitants, sorte de cité radieuse de la nomenclatura, située sur les bords de la Moscova. Comment vivait cette communauté? Ce roman, qui participe de la tendance actuelle du rapprochement entre histoire et fiction, apporte certainement la réponse à cette question, à condition de lire les 1296 pages qui le constitue, ce qui est tout à fait faisable. À vrai dire, nous nous sommes un peu éloignés de nos essais et de leur succès. Reprenons donc. Pour La Croix, l'un des livres les plus intéressants serait rentré, serait l'essai de Dorian Leader, psychanalyste anglais, intitulé « Main, ce que nous faisons d'elle et pourquoi ». Hands, en anglais, ça sonne un peu mieux. Un ouvrage qui parle donc des mains, de leur activité incessante qui se déroule presque à notre insu. L'auteur nous dit, Élodie Moreau, relève qu'au moment où l'on s'éloigne des cigarettes dans un monde de plus en plus sans tabac, je cite, quelque chose a miraculeusement pris sa place. Venu de nulle part, si l'on peut dire, les téléphones mobiles colonisent les espaces sociaux et corporels. Ainsi donc, ces mains à la fois nous servent et nous échappent. L'auteur, par ce constat, et mêle, nous dit le critique, psychanalyse et histoire, exemple tiré du cinéma et de la vie quotidienne. Ainsi, même si elle relève que l'ensemble manque un peu de structure, nous voici bien devant un essai, la tentative d'ouvrir une nouvelle voie de la pensée entre curiosité, enquête et errance. Ce renouvellement permanent de la réflexion par l'essai, on le retrouvera aussi dans un livre consacré par Vincent Brocvieille, historien de l'art, sur une proposition du musée d'Orsay, « Pourquoi c'est connu ?» est-il intitulé ce livre? On le retrouve donc dans ce livre. Ce titre un peu enfantin, Pourquoi c'est connu, qui nous rappelle ceux de la littérature jeunesse, nous dit Sybille Vincendon dans Libération, est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il parle de la gloire posthume des œuvres, refusée, scandaleuse, vue à la télé, selon les catégories établies par l'historien lui-même. Auteur universel à leur époque, puis universellement oublié, ou méprisé à leur début, comme le furent les impressionnistes, aujourd'hui universellement reproduits, calendrier et boîtes de biscuits compris. Pas de rangement dans cet ouvrage, nous dit la critique. Ces catégories ne se succèdent pas dans les pages, mais sont disséminées partout dans l'ouvrage. Picorage, qui s'ouvre et se ferme sur des quiz situés dans les rabats du livre, un livre donc alléchant qui parle de la gloire des œuvres, à la fois curieux et innovant, et c'est peut-être cela un essai, un livre à sa manière révolutionnaire.